Elles pâturent, elles évitent que des ligneux viennent s'y installer, elles évitent qu'il y ait des saules, qu'il y ait des aulnes, qu'il y ait voilà, tout un tas de végétation qui viennent effectivement embroussailler, refermer l'espace. Généralement, les agriculteurs le savent bien, ben voilà, une zone qui présente ces caractéristiques-là au niveau de la flore, ben c'est une zone qui est, c'est ce qu'ils appellent ici les sagnas, c'est la zone vraiment humide qui est difficilement pénétrable, difficilement mécanisable aussi. C'est pour ça que mettre des vaches, bon, en particulier des vaches au bras qui sont rustiques, sur ces zones, c'est plus adapté et on essaie de travailler avec eux pour favoriser en fait ces pratiques-là.
Ces fameuses vaches au bras et leurs petits veaux-là, vous leur avez donné des petits noms ?
Non, elles n'ont pas de petits noms.
Vous avez une petite préférée ?
Elles travaillent toutes pour le terrain. Après, généralement, il ne faut pas se cacher dans les troupeaux. Celui qui est le préféré, c'est le taureau.
J'ai l'impression d'être en pleine campagne, mais en fait, on n'est pas loin d'une zone commerciale. Mais là, on est dans une zone... oui, un petit peu en dehors du monde.
On est en fait dans un îlot de biodiversité ici parce que effectivement on est en pleine zone urbaine dans un espace qui est pas du tout très peu aménagé par l'homme mais qui est entretenu par des animaux. C'est une zone humide, une zone d'expansion de crues. L'idée, c'est en fait que le cours d'eau qu'on a ici, qui est l'Auterne, il vient déborder au maximum sur cette zone humide, qui va avoir une énorme capacité de rétention de l'eau. Tout ça pour éviter en fait que l'eau n'arrive trop vite sur les zones habitées, sur les zones où il y a un risque, une vulnérabilité aux inondations. Alors vraiment, il y a toute l'eau qui est souterraine en fait, déjà qui est contenue vraiment dans le sol, qu'on ne voit pas et qui voilà, qui nous semble pas être marécageuse. Et puis après, il y a la phase où, s'il continue de pleuvoir comme il pleut aujourd'hui, on va avoir le cours d'eau qui va grossir, à force de grossir, qui va déborder et on sera vraiment sur une zone inondée. C'est une zone inondable et c'est l'objectif qu'elle soit inondée justement.
Et alors le cours d'eau dont vous parlez, c'est celui qui est en face de nous là ?
Le cours d'eau de l'Auterne.
Voilà, c'est lui
qui peut effectivement déborder, qui peut sur des gros, soit des gros épisodes orageux, soit suite à des pluies constantes de long terme, grossir au fur et à mesure du temps et déborder sur la zone humide. Voilà, sur l'Auterne, il y a eu aussi des travaux qui ont été réalisés, toujours dans cette idée de favoriser son débordement, de favoriser aussi la biodiversité, la diversité des habitats dans ce cours d'eau. Donc on a fait notamment ce qu'on appelle la recharge granulométrique, donc on a rajouter en fait des cailloux, des éléments pour diversifier vraiment toutes les choses que les petites bêtes de la rivière vont trouver dedans.
D'accord, donc c'est aussi un travail pour la biodiversité.
Un travail pour la biodiversité. En parallèle, on a aussi travaillé sur ce qu'on appelle la ripisylve. Donc la ripisylve, c'est la végétation de berge. Il y avait notamment pas mal de peupliers qui étaient plantés ici en berge, en bordure de l'Auterne. Ces peupliers-là sont pas forcément souhaitables en bordure de cours d'eau. On essaye au fur et à mesure, quand on peut, de les remplacer par des essences un petit peu plus adaptées. Les peupliers, il faut savoir, c'est ce qu'on appelle les peupliers de culture. Ils ont pas forcément... ils ont un enracinement un peu superficiel, ils ont une forte prise au vent, qui vont facilement aller tomber dans la rivière et générer des problèmes d'ordre hydraulique. Donc on essaye progressivement de les remplacer. Et là, c'est ce qui a été fait. Donc les peupliers qui ont été coupés, ils ont été remplacés. À chaque peuplier coupé, 3 arbres d'essence locale ont été replantés en berge.
Essence locale, par exemple ?
Des essences locales, là on a par exemple un frêne, on peut avoir ici en face de l'aulne, du noisetier, on a des essences un peu plus, un peu plus adaptées en bordure de cours d'eau.
Cette idée de mettre des vaches au braque, donc pour manger un petit peu et empêcher qu'il y ait des arbres et permettre que la terre retienne bien l'eau, qui a eu cette idée ? Enfin, c'est scientifiquement prouvé, la vache c'est mieux que le cheval, qu'est-ce qui s'est passé ?
Bon, ici on est sur un territoire d'élevage, on est sur un territoire où on a des vaches essentiellement. L'Aubrac, c'est un petit peu l'identité aussi du territoire aveyronnais. On a le lycée agricole de la Roque qui a cet espace en gestion agricole. Donc c'est eux qui mettent leurs vaches et ils sont passés récemment en bovin viande avec cette race Aubrac.
Alors cet espace, Nostre Seigne. Bon, il n'est pas qu'aménagé pour les vaches au braque, hein, il est aussi aménagé pour le public qui peut s'y promener. Là, on est actuellement sur un ponton en bois qui a été monté. C'est pour éviter de trop s'embourber parce que là, le terrain, il est vraiment là pour le coup très très humide, même si ça se voit pas trop.
Tout à fait. Là, on est sur un ponton. On vient de passer l'entrée du ponton. Donc parce qu'on est sur une zone qui est trop marécageuse pour pouvoir y s'y promener à pied. Voilà, le syndicat Aveyron-Hamon a implanté effectivement ces panneaux, ces pontons, pardon, pour pouvoir circuler à pied sec.
Heureusement qu'il y a ces pontons, d'ailleurs, hein, quand même.
Heureusement qu'il y a les pontons, parce que sinon, on s'enfoncerait, je pense. On serait un petit peu embourbé, ouais.
Là, il y a une petite... c'est le Lauterne, ça, ou c'est une petite résurgence d'eau, c'est quoi?
Alors, non, c'était anciennement des drains, en fait. Des fossés qui avaient été créés pour, justement, accélérer les écoulements, essayer que la zone soit un peu moins humide, et faire évacuer le plus rapidement possible l'eau. Ce qui aujourd'hui, on le sait, n'est pas forcément favorable par rapport à l'objectif qui est de maintenir au maximum l'eau dans cet espace-là qui n'a pas d'enjeu inondation.
D'accord. Est-ce que ça, c'est devenu, déjà devenu un lac ici ?
Oui, là, c'est déjà devenu, effectivement, oui, un presque lac, enfin, une zone complètement sous eau. Donc, à l'entrée du ponton, tout à l'heure, on avait un repère de crue. Donc ça, les repères de crue, ce sont des petits macarons qu'on appose sur des endroits où on est capable d'identifier que la crue, à un instant donné, donc là, en l'occurrence, c'était l'année 2019, est montée jusque-là. On est capable de prouver, de démontrer que la crue est allée jusqu'à cet endroit-là, au niveau du repère de crue. Ça permet de se repérer, de se souvenir, d'entretenir la mémoire des crues.
La plus haute crue, elle est montée jusqu'à quelle hauteur ?
Alors voilà, ici on avait de l'eau jusqu'au-dessus de la tête. On aurait de l'eau jusqu'au-dessus de la tête lors d'une crue centennale. On est sur le ponton et donc sur le panneau qu'on voit, le petit bonhomme, il a un parapluie qui malheureusement aujourd'hui ne lui sert à rien. Il est sous l'eau. Voilà, 2 mètres au-dessus du niveau du ponton si on était en crue centennale. La crue centennale, c'est la crue qui est susceptible de se produire un risque sur 100 chaque année.
D'accord. Et alors sinon, en moyenne, tous les ans, l'eau... Bon, elle monte évidemment pas à ces hauteurs de 2 mètres. Hein, bon. Tous les ans, on trouve à peu près quel niveau d'eau maximum?
Globalement, on peut arriver à fleur du ponton assez facilement chaque année. Ouais.
Donc fleur du ponton, il y a quoi? Il y a 40 cm, hein, quelque chose comme ça, 30-40?
Oui, alors sachant qu'on peut observer autour de nous, l'espace il est vaste. Donc, et au plus on a une zone d'expansion de crue qui est vaste, qui est large, et forcément moins, on va dire, le niveau d'eau est impressionnant en hauteur, mais il y a vraiment cette grosse capacité à s'étaler et à stocker énormément d'eau sur cette grande zone finalement.
Et alors les vaches au braque, elles sont dans l'eau, même à 30-40 cm d'eau, ça leur va ou à ce moment-là, il faut quand même les mettre ailleurs ?
Non, à ce moment-là, elles sont pas au pré, c'est-à-dire qu'elles sont au pré que la période estivale, en période de pâturage, en période où justement elles ont aussi peu de risque d'abîmer le terrain de la zone humide, et ensuite elles retournent à l'intérieur pour la période hivernale, là où il y a le plus de risque de crue.
Ce qui pousse ici a un intérêt particulier pour ces vaches au braque, positif ou pas?
Alors on a tout un travail aussi qui se fait avec le lycée Larocque justement qui a les vaches sur le site. On fait des modules pédagogiques pour essayer justement de connaître un petit peu les tenants, les aboutissants en fait du pâturage en zone humide. Savoir un petit peu quelle va être la qualité du fourrage dans cette zone humide ou par rapport en fait à une autre zone qui serait pas humide. De voir un petit peu quels sont les risques aussi par rapport au parasitisme. Comment est-ce qu'on peut adapter les charges pour limiter les risques de parasitisme, etc. Il y a un gros travail pédagogique qui est en train de se mettre qui a commencé déjà à se mettre en place et qui va se poursuivre dans les années à venir.
Chloé, des zones comme celle-ci, la Nostre Seigne, c'est unique en Aveyron, enfin pour le syndicat mixte Aveyron-Hamon. Vous avez qu'un site comme ça ou il y en a plusieurs ?
On n'a qu'un site de cette ampleur-là. On a d'autres sites un peu plus petits, pareil, où on a fait des travaux sur des sites publics pour l'instant, avec ouverture au public, du coup. Voilà, on en a une sur Ignac, une sur la Rouquette, sur le bassin versant Aveyron-Hamon. Après, des zones humides, il y en a toute une multitude qui sont pas forcément aménagées pour le public, mais il y a toute une multitude de zones humides et on a réalisé d'ailleurs un inventaire de ces zones humides pour essayer un petit peu de mieux comprendre où elles sont placées, quels vont être peut-être les risques de dégradation, les marges de progrès qu'on peut avoir par rapport à justement cet enjeu de mieux retenir l'eau dans le territoire. Voilà, donc on a ce travail-là qui a été réalisé, qui est encore en cours de d'ailleurs, parce que comme on a un vaste territoire, on a certains morceaux de territoire qui sont pas encore couverts par l'inventaire, donc c'est en cours.
Vous, je vous ai pas demandé. Là, vous êtes là pour m'accompagner. Bon, mais enfin, sinon, vous venez sur le site régulièrement. Vous, quand vous venez, c'est pour y faire quoi en tant que technicienne rivière?
Alors aujourd'hui, quand on vient sur le site, bah, c'est plus pour voir un petit peu qu'est-ce qui commence à évoluer, quelles vont être les évolutions de ce site, est-ce qu'il y a des besoins en entretien particulier, est-ce que les clôtures vont être toujours en bon état, est-ce que voilà, ça va être essentiellement de l'entretien et du maintien des usages en fait. Il y a aussi un suivi un petit peu plus poussé sur ce site par rapport à l'enjeu vraiment de maintien de la zone d'expansion de crue. L'idée en fait, c'est de suivre par un drone, c'est la Fédération de pêche de l'Aveyron qui nous fait ce travail-là, l'évolution en fait de la zone et notamment la mobilité dans le cours d'eau des matériaux, comment est-ce que au fil du temps les matériaux vont bouger, vont se déplacer, le cours d'eau va lui aussi évoluer.
S'il n'y avait pas cet espace pour permettre des inondations et donc du coup les empêcher ailleurs, quelles conséquences on aurait là sur le Ruthénois, sur René le Château?
Cette zone, elle existait déjà. Après, on a effectivement rebouché quelques drains, refavorisé un petit peu son caractère inondable. Donc, il y a d'une part, si elle n'existait pas, effectivement, certainement qu'on aurait des écoulements beaucoup plus rapides en aval et des phénomènes d'inondation qui arriveraient peut-être plus souvent et en tout cas beaucoup plus vite. Et puis, y aurait aussi peut-être un risque que ces surfaces, si elles n'avaient pas été identifiées comme des surfaces, des zones humides, des zones d'expansion de crues importantes, peut-être un risque qu'elle soit à terme urbanisée, donc imperméabilisée. Qui dit imperméabilisée, ça veut dire mais une eau qui ne peut pas s'infiltrer, donc qui va aller rejoindre encore plus vite le ruisseau, donc des risques d'inondation et localement et en aval bien aggravés.
Ah bah voilà. Donc là, Chloé, pour le coup, on est dans un endroit où... Oui, zone humide, le mot est faible. Bon, on appuie quand même. Hein.
On le sent bien.
Oui.
Là, j'appuie, ça s'enfonce, je relâche la pression du pied, ça revient. C'est une éponge, une vraie éponge. Oui. Ce sol, il contient une quantité astronomique d'eau. Et voilà, mais du coup, toute cette eau-là, c'est de l'eau qui est, quand il y a des surplus, qui est stockée. Là, ici, à cet endroit précis, on est arrivé à saturation de ce qui peut être contenu dans le sol. Et puis après, ben, ça va être du débordement, ça va être de l'inondation du terrain.
Ce terrain, il est connu pour être une zone humide depuis un certain temps en Aveyron, et même depuis très très longtemps, bien avant l'Aveyron, bien avant les Aveyronnais, c'est aussi un site archéologique.
C'est en effet un site archéologique, puisque des fouilles ont mis en évidence qu'il y avait de nombreux bâtiments qui étaient liés à l'eau, avec les Gallo-Romains qui venaient en fait sur un temple, sur des thermes, probablement avoir des rites liés à l'eau, et donc déjà à la présence de cette zone humide et de ce ruisseau.
Bon, mais par contre, ils n'avaient pas pensé aux vaches.
Ils n'avaient pas forcément pensé aux vaches.
Voilà. Donc tout ce travail sur la plaine d'Ostre-Seine, ici, bon, il est mené de façon concrète par le syndicat mixte à Aveyron-Hamont, bien sûr, hein, et vous, notamment, vous n'êtes pas toute seule, Chloé, enfin, technicienne rivière. Bon, mais il y a, j'imagine, de nombreux partenaires qui suivent le projet, ils sont à vos côtés.
Pour réaliser ce projet, donc d'abord physiquement déjà, on a notre équipe en régie qui est mise à disposition de Rodez Agglomération, qui est vraiment sur le terrain pour mettre en place les travaux et les réaliser. Et puis, forcément, rien ne serait possible sans argent. Et on a des partenaires techniques et financiers qui sont incontournables, notamment sur ce projet-là. On a eu un financement de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, du Conseil régional Occitanie et du Conseil départemental de l'Aveyron. Et bien sûr, on a effectivement ce site, il est propriété de la mairie d'Onnay-le-Château.
Ah oui.
Voilà, donc ça, rien n'aurait été possible aussi sans le partenariat qu'on a avec la mairie d'Onnay-le-Château.